Bienvenue à notre épisode consacré à la naissance de la Tanzanie post-coloniale. En 1964, Julius Nyerere fait face à une double crise. La révolution sanglante à Zanzibar et la mutinerie de ses propres forces, les Tanganyika, rifle. Pouvez-vous nous plonger dans cette période charnière ?
Imaginez un tout jeune État, encore fragile, balayé par la violence de la révolution à Zanzibar, qui fait environ 6 000 morts ou exilés. Quelques semaines à peine plus tard, survient la mutinerie. Des soldats en colère exigent de meilleurs salaires et une véritable reconnaissance, brandissant la menace de faire basculer le pays dans le chaos. Face à cette crise existentielle, Nyerere n'a d'autre choix que de démanteler purement et simplement l'armée nationale, laissant la Tanzanie nue, sans défense, dans une région instable et imprévisible.
Cette décision paraît radicale, presque suicidaire.
Il a compris que conserver une armée héritée du colonialisme, divisée, indisciplinée, mécontente, ne ferait qu'exacerber l'instabilité d'un État déjà fragile. En ordonnant les arrestations, puis en dissolvant purement et simplement le corps, Nyerere mise sur la création d'une force nouvelle, alignée sur les idéaux de souveraineté, d'unité et de service au peuple. Mais, à cet instant précis, la Tanzanie ne dispose ni de ressources suffisantes, ni d'alliés fiables, ni même d'un plan clair pour reconstruire sa défense nationale.
C'est donc dans ce contexte de vide sécuritaire que naît l'idée d'une armée populaire. Passons à la façon dont elle sera conçue. La doctrine Ujamaa de Julius Nyerere, centrée sur un socialisme africain fondé sur la communauté, l'égalité et l'autosuffisance, a-t-elle également façonné la structuration et la culture de la nouvelle armée ? Dans quelle mesure cet idéal politique s'est-il traduit dans l'organisation, l'entraînement et les missions confiées à la Tanzania People's Defence Force ?
L'Ujamaa prône la solidarité, l'égalité et l'autonomie. Plutôt que de reproduire les modèles hiérarchiques hérités de l'époque coloniale, Nyerere aspire à bâtir une armée du peuple, intimement enracinée dans la société civile. Dès septembre 1964, avec l'appui de l'Organisation de l'Unité africaine et de certains États africains, il fonde la Tanzania People's Defence Force, intégrant dans ses rangs d'anciens membres de la Zanzibar People's Liberation Army.
C'est une rupture, on passe d'une armée élitiste à une force inclusive. Mais comment a-t-on concrètement opéré ce changement d'esprit ?
L'accent est mis sur la formation idéologique, l'éducation politique des soldats et l'intégration ethnique. Des officiers partent se former dans divers pays, y compris au Canada, et les entraînements mêlent civils, anciens mutins et combattants de Zanzibar. Cette hybridation vise à forger une identité nationale, non plus tribale ou coloniale.
On voit ici un parallèle étonnant avec la révolution culturelle chinoise ou la décolonisation vietnamienne, où l'armée devient aussi moteur de transformation sociale. D'ailleurs, la Tanzanie s'est-elle inspirée de ces exemples ?
Oui, notamment sous l'influence de conseillers chinois et soviétiques qui participent à la formation et à l'équipement des troupes. Mais Nyerere demeure pragmatique. Il refuse tout alignement idéologique strict, préférant forger un modèle hybride, adapté aux réalités politiques, sociales et économiques de la Tanzanie. Cette orientation singulière prépare l'armée à un rôle dépassant rapidement la seule défense du territoire national, un rôle régional, où la Tanzania People's Defence Force devient un acteur incontournable des équilibres en Afrique de l'Est et australe.
Au fil des années 60 et 70, la Tanzanie s'affirme comme le pivot des mouvements de libération en Afrique australe, offrant ses terres comme sanctuaire et ses réseaux diplomatiques comme levier. Comment ce pays, modeste par sa taille et ses moyens, s'est-il imposé au point d'être reconnu comme un État de première ligne ?
La stratégie de Julius Nyerere s'appuie sur deux piliers. L'accueil des exilés politiques et une solidarité active envers les mouvements indépendantistes du continent. Dès 1963, Dar es Salaam devient le siège du comité de libération de l'Organisation de l'Unité africaine, offrant un point d'ancrage diplomatique et logistique aux organisations révolutionnaires venues d'Angola, du Mozambique, d'Afrique du Sud ou du Zimbabwe. Sur le terrain, l'armée tanzanienne ne se limite pas au soutien moral. Elle met en place des camps d'entraînement, des infrastructures logistiques et, dès 1964, crée la Special Duties Unit, force spécialisée, chargée d'encadrer et de former les combattants.
C'est presque une base arrière continentale. Mais ce rôle n'a-t-il pas exposé la Tanzanie à des menaces extérieures ?
Soutenir des mouvements comme le Frelimo ou l'ANC attire la méfiance des puissances coloniales et des voisins hostiles. Par exemple, lors de la guerre d'indépendance du Mozambique, la région frontalière au sud de la Tanzanie subit des incursions et des représailles. Pourtant, Nyerere persiste estimant que la sécurité de la Tanzanie passe par la libération de tout le sud du continent.
Peut-on dire que cette implication a aussi renforcé l'identité nationale tanzanienne ?
Oui, c'est un effet notable. L'armée devient un creuset de solidarité panafricaine et un vecteur de fierté nationale. Mais cette posture n'est pas sans conséquences, notamment dans les rapports de force avec l'Ouganda d'Idi Amin, un autre voisin turbulent.
Transitionnons vers la fin des années 70, période charnière où les équilibres régionaux se tendent. Le conflit ouvert avec l'Ouganda d'Idi Amin marque un tournant décisif dans l'histoire militaire tanzanienne. Derrière cette confrontation se profile un enchaînement de provocations, d'incidents frontaliers et de rivalités politiques, exacerbées par l'instabilité ougandaise et les ambitions erratiques de son dirigeant.
Après des années de provocations, d'escarmouches et d'incidents frontaliers, Idi Amin franchit en 1978 la ligne rouge en annexant la région tanzanienne de Kagera. L'affront est trop grave pour rester sans réponse. Julius Nyerere mobilise l'armée populaire, aguerrie par ses engagements panafricains et sa discipline héritée de l'Ujamaa. En quelques mois, les troupes tanzaniennes franchissent la frontière, avancent sur Kampala, renversent Amin et installent un gouvernement provisoire pour rétablir l'ordre. Ce fut l'un des rares exemples, dans l'histoire postcoloniale africaine, d'un renversement militaire conduit au nom de principes défense de la souveraineté, rejet de la tyrannie et non dicté par des ambitions expansionnistes.
Cet engagement a-t-il laissé des traces durables sur la Tanzanie et la région ?
Sur le plan interne, la victoire conforte la légitimité de l'armée populaire et de Julius Nyerere, renforçant l'image d'un État capable de défendre ses principes et ses frontières. Mais ce succès a un prix. Un coût humain et financier colossal, dont les séquelles pèseront sur plusieurs années de développement. À l'échelle régionale, la Tanzanie s'impose comme une puissance stabilisatrice, capable d'influer sur l'équilibre des forces en Afrique de l'Est.
En somme, l'histoire de l'armée tanzanienne, née dans la tourmente, est indissociable de l'idéal du Jamaa et du panafricanisme, porté comme boussole politique et morale depuis l'indépendance. Mais derrière la légende héroïque demeure une réalité plus nuancée. Comment, dans un contexte d'instabilité régionale, de menaces transnationales et de mutations socio-économiques, préserver un héritage aussi dense sans le figer ni le dénaturer ? La question renvoie à la capacité de l'institution à conjuguer fidélité aux valeurs fondatrices et adaptation lucide aux exigences du présent, un équilibre aussi fragile que stratégique.
C'est là un chantier ouvert. Concilier mémoire, cohésion nationale et adaptation aux enjeux contemporains, du terrorisme à la mondialisation, sans trahir l'esprit fondateur. L'armée tanzanienne demeure, à bien des égards, un laboratoire vivant de la décolonisation africaine, où se mêlent fierté nationale, vigilance stratégique et héritage idéologique. Elle incarne à la fois la continuité d'un récit historique, forgé dans la lutte pour l'indépendance et la nécessité permanente d'évoluer face à des défis mouvants. Cette tension entre tradition et innovation, entre loyauté aux idéaux fondateurs et pragmatisme face aux réalités du XXIe siècle, façonne un modèle militaire singulier sur le continent.